Bonjour mesdames, messieurs. Donc, je vais vous parler donc de la problématique des médicaments et de la brevetabilité du vivant dans les pays de l'OAPI, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce. Donc, on va d'abord voir ce qu'est l'organisation. Je vais d'abord vous parler dans un premier temps de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et dans un deuxième temps, je vous parlerai donc sur les entraves à l'élaboration et à l'application des mesures imposées par l'APIC. Donc, au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, je vais vous présenter l'historique. Donc, en 1962, donc c'est la naissance de l'Organisation africaine et malgache de la propriété intellectuelle, par la signature de l'accord de Bangui, qui a fait regrouper 12 pays d'Afrique francophone. En 1967, l'OMPI devient OAPI avec le retrait de Madagascar. Et en 1977, il y a une révision de l'accord de Bangui. Donc, l'accord de Bangui ne traite plus seulement de la propriété industrielle, c'est-à-dire des brevets, des marques, des dessins et modèles industriels, mais élargit son champ de compétences à la propriété intellectuelle, dont le plus connu est le droit d'auteur ou le copyright, comme on dit ici en Amérique du Nord. Donc, il y a lieu de signaler aussi que le siège de l'OAPI se situe à Yaoundé, au Cameroun. Au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, toujours, on va parler donc du rôle de l'OAPI. Quand on regarde au niveau de la compétence rationnée matérielle, donc l'OAPI réglemente la propriété industrielle, donc tout ce qui est brevet d'invention, les marques, les dessins ou modèles industriels, les modèles d'utilité, les noms commerciaux, les appellations d'origine, les indications de provenance et la protection de la concurrence déloyale. En 1977, comme je vous disais tout à l'heure, la compétence de l'OAPI a été élargie à la propriété intellectuelle, ce qui fait que l'OAPI réglemente désormais les œuvres littéraires et artistiques, les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles et puis les œuvres du folklore. Au niveau de la procédure commune d'acquisition et de maintien des titres de propriété industrielle, c'est-à-dire par exemple quand on fait une demande de titre de propriété industrielle au niveau de l'OAPI, si par exemple on fait une demande de brevet, en fait, un seul dépôt est effectué au niveau de l'OAPI et il a valeur de c'est-à-dire que ce dépôt-là, en fait, vaut pour tous les États membres de l'OAPI. Donc, on peut faire son dépôt au niveau de la direction générale de l'OAPI, dont le siège est à Yaoundé, mais c'est comme si on avait fait le dépôt au niveau de tous les États membres de l'OAPI. Donc, on continue avec le fonctionnement donc de l'OAPI. Au niveau du fonctionnement, donc on a le conseil d'administration qui réglemente et contrôle l'activité de l'organisation. On a la direction générale de l'organisation. Donc c'est la direction générale à sa tête, le directeur général, qui est le plus haut fonctionnaire de l'administration de l'OAPI. C'est lui qui délivre donc les titres de propriété industrielle ou c'est lui qui refuse de délivrer les titres de propriété industrielle. Ensuite, on a la commission supérieure de recours, qui est un organe, qui est une instance juridictionnelle, c'est-à-dire que les titres délivrés par le directeur général de l'OAPI peuvent connaître d'un recours devant donc cette commission supérieure de recours-là. Ensuite, on a le contrôleur financier, évidemment, qui traite de toutes les activités financières de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut dire donc en ce qui concerne l'OAPI, que c'est un système quand même, c'est un système avancé au niveau de l'harmonisation donc de la demande des titres de propriété industrielle, c'est-à-dire que un titre est délivré, comme je vous l'ai dit, et il a valeur de dépôt national au niveau de tous les pays de l'OAPI. Seulement, c'est un système qui a ses limites dans la mesure où les titres sont délivrés sans garantie de gouvernement. Que veut dire titre délivré sans garantie de gouvernement? Ça veut dire que, en fait, les examinateurs de l'OAPI qui n'ont pas de compétences véritablement juridiques en la matière, je dirais de compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle, ne vérifient pas les conditions de fond de demande de la brevetabilité d'un titre. Donc, ils vont se borner à faire une régularité formelle, c'est-à-dire à vérifier, par exemple, si on a payé la taxe de dépôt, si on a payé la taxe de publication, mais ils ne vont pas vérifier, par exemple, si les conditions de fonds de brevetabilité sont remplies, à savoir la nouveauté, l'activité inventive ou l'application industrielle. Donc, c'est un bon système qui est comparable au système de l'Organisation européenne des brevets au niveau européen, qui va même plus loin que l'Organisation européenne des brevets dans la mesure où tous les titres délivrés au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle procèdent de cet organisme, mais c'est un système qui a ses limites dans la mesure où il n'y a pas un examen de fond qui est fait, alors qu'au niveau de l'Organisation européenne des brevets, il y a un examen de fond qui est fait, mais à la différence de ce qui se passe au niveau de l'OAPI, c'est que au niveau de l'OEB, par exemple, on a l'OEB au niveau européen qui délivre les brevets, mais l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui est l'organisme qui délivre les titres de propriété intellectuelle en France, peut aussi délivrer les titres de propriété intellectuelle. Moi, je prends l'exemple de la France, et voilà. Donc, en fait, on a deux organismes qui peuvent délivrer au niveau européen les titres de propriété intellectuelle, alors que au niveau africain, au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il n'y a que l'OAPI qui peut délivrer ces titres. Je parle de l'Afrique francophone, parce que la dernière fois, j'ai parlé de deux organismes, la RIPO et puis l'OAPI, mais vu le temps qui m'est imparti, je ne parle que de l'OAPI. Effectivement, évidemment aussi, dans la partie anglophone, la RIPO fait à peu près la même chose que l'OAPI, comme j'en ai parlé lors de ma conférence du 6 février 2008. On en arrive donc aux entraves à l'élaboration et à l'application des mesures imposées par l'ADPIC. Donc, dans cette partie, on va voir l'établissement et l'harmonisation des normes par l'ADPIC et on va voir la mise en œuvre difficile de l'ADPIC par les pays de l'OAPI, notamment en ce qui concerne l'accès aux médicaments et en ce qui concerne la problématique de la brevetabilité du vivant. Donc, on va donc parler de l'accord relatif aux aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce, qui date de 1994 et qui peut aussi s'appeler accord de Marrakech. Pourquoi j'ai parlé de l'ADPI? Pourquoi j'ai préféré parler de l'ADPI? Parce que c'est cet accord qui est le plus difficile à mettre en œuvre par les pays en voie de développement et notamment par les pays de l'OAPI. Bien sûr, les pays de l'OAPI font partie de plusieurs autres accords comme le traité de coopération en matière de brevets ou bien le traité de Berne ou bien la convention de Paris. Sauf que ces autres conventions-là ne sont pas obligatoires ou coercitives ou bien unilatérales comme est l'ADPIC. Par le fait que l'ADPIC est singulière et particulière par ses normes, elle est donc difficile à mettre en œuvre par ces pays. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu parler de l'ADPIC au lieu de parler des autres traités auxquels les pays de l'OAPI sont partis. Il y a lieu d'apporter quand même une précision par rapport à la réglementation de la propriété intellectuelle au niveau mondial. Il y a lieu de retenir qu'il y a deux organismes internationaux qui gèrent les droits de propriété intellectuelle. Donc on a l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Genève. Et puis depuis 1994, on a donc l'ADPIC, on a donc l'OMC, l'ADPIC au travers de l'accord de l'OMC qui réglemente donc aussi les aspects de droits de propriété intellectuelle. Donc, comme je vous l'ai dit au préalable, l'ADPIC établit des normes et harmonise des normes. Donc, au niveau de l'établissement des normes, dont l'ADPIC s'est basé sur les conventions antérieures, les conventions qui existaient déjà avant, pour définir. L'ADPIC s'est basé sur la Convention d'Union de Paris ou la Convention de Berne pour définir, par exemple, en ce qui concerne la propriété industrielle, l'objet brevetable, les conditions de brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. De même sont définis les délais de protection qui sont d'au minimum 20 ans pour les brevets, 7 ans pour les marques ou 10 ans pour les dessins ou modèles industriels. En fait, l'ADPIC se réfère donc aux conventions antérieures pour elles-mêmes élaborer des normes. Mais en général, ces normes sont tirées donc des conventions qui existaient préalablement à l'APIC. Donc, on continue avec l'établissement des normes. Donc, au niveau de l'établissement des normes, comme je le disais, si un membre méconnaît ses obligations, ça je parle maintenant de l'aspect contentieux ou bien l'aspect, l'aspect contentieux, l'aspect sanction, tout ça. Donc, si un membre méconnaît ses obligations, l'autre partie peut l'attirer devant l'organe de règlement de différends. Donc, je le dis très bien, à la différence du GATT, donc, parce qu'avant, avant la PIC, il y avait le GATT de 1947 qui existe toujours, qui a été incorporé dans les accords de Marrakech. Le GATT avait donc mis en place une procédure de conciliation peu efficace. Qu'est-ce que ça veut dire peu efficace? C'est-à-dire que les mesures n'étaient pas coercitives. On n'avait pas trouvé, des sanctions efficaces pour pouvoir faire en sorte que les États puissent, puissent respecter donc, les normes qui avaient été mises en place par le GATT. Donc, à la différence donc, du GATT, l'originalité de l'OMC, comme je l'ai dit, réside dans la mise en place de rétorsions croisées. Qu'est-ce qu'il faut entendre par rétorsions croisées? L'APIC, c'est-à-dire l'accord de Marrakech, a plusieurs volets. Donc, on a l'accord on a l'APIC qui traite de la propriété intellectuelle, on a l'accord des services, on a l'accord des marchandises, c'est-à-dire le GATT de 1947 qui a été remis dans l'accord de Marrakech. Si une partie donc méconnaît ses obligations, par exemple au titre de la propriété intellectuelle, ne respecte pas, par exemple, les normes qui ont été mises en place par rapport à la propriété intellectuelle, eh bien, il peut être sanctionné, mais au titre d'un autre accord. Au titre d'un autre accord, par exemple, les droits de douane. Donc, s'il était exempté d'un taux assez exceptionnel par rapport aux droits de douane, ce taux va être peut-être revu à la hausse parce qu'il ne respecte pas, par exemple, l'APIC. Donc, voilà, c'est de ça que je parle. Donc, concession tarifaire, des droits de douane, tout ça. Par ailleurs, l'APIC établit des mesures communes aux frontières ainsi que des sanctions harmonisées des droits de propriété intellectuelle. Pour ce qui est de l'harmonisation des normes par l'APIC, l'harmonisation veut dire la mise en conformité par les législations internes des pays qui ont donc adhéré à l'APIC. Et donc la plupart des pays aujourd'hui ont adhéré à l'accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, dont les pays développés avaient jusqu'au 1er janvier 1996, les pays en voie de développement avaient jusqu'au 1er janvier 2000, les pays ne disposant pas d'une législation en matière de médicaments, comme l'Inde par exemple, qui ne disposait pas d'une législation en matière de médicaments, avaient jusqu'au 1er janvier 2005, pardon. Les pays les moins avancés disposaient de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2006. Ce délai a été prorogé jusqu'en 2016 par l'accord de Doha. L'accord de Doha, c'est l'accord qui est venu expliciter les dispositions de l'APIC. Faire que ce soit plus clair pour les pays. On passe maintenant à la difficile mise en œuvre de l'APIC par les pays de l'OAP. Il existe des flexibilités ou des clauses de sauvegarde qui permettent de limiter les voies du breveté dans une certaine mesure. Au rang de cette flexibilité notamment, on note le système des importations parallèles qui permettent à un pays de s'approvisionner sur le marché mondial afin de trouver le médicament à un prix plus avantageux et cela sans la permission du titulaire du brevet. Le mécanisme de la licence obligatoire qui implique que les autorités publiques autorisent un tiers à fabriquer un produit breveté ou à utiliser le produit breveté sans l'accord du détenteur du brevet, et la disposition BOLA qui peut être définie comme permettant aux fabricants de médicaments génériques d'utiliser des produits brevetés sans autorisation pour leur recherche afin d'obtenir plus rapidement les résultats des essais à fournir aux autorités de santé chargées de l'attribution de l'autorisation de mise sur le marché de leurs médicaments génériques dès l'expiration du brevet. En outre, les pays en voie de développement peuvent aussi utiliser les flexibilités des articles 7 et 8 qui, bien que d'application générale, peuvent servir à prendre des mesures pour protéger la santé publique. Toutefois, l'accès aux médicaments est toujours difficile dans ces pays parce que les pays de l'OAPI n'ont pas adopté un système d'épuisement international des droits de propriété intellectuelle. Ce qu'on note, c'est que les pays de l'OAPI ont adopté un système d'épuisement régional des droits de propriété industrielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'appliquer au domaine des médicaments, il consiste à importer un médicament moins cher seulement dans la région OAPI. Le système international permet d'aller chercher un médicament moins cher dans n'importe quel pays du monde, alors que le système régional que les pays de l'OAPI ont adopté permet seulement d'aller chercher un médicament dans la région de l'OAPI, ce qui fait en sorte que le système OAPI, par le fait de cette disposition, devient plus restrictif que le système APIC, et donc il faudrait y apporter des changements. Quant au mécanisme de la licence obligatoire, qui est une flexibilité qui est fournie par l'APIC, elle peut être difficilement mise en œuvre car ces pays ne disposent pas d'industrie de technologie de pointe pour la fabrication locale des médicaments, pas plus qu'ils ne disposent d'un arsenal administratif et judiciaire pour l'octroi d'une licence obligatoire. Ensuite, les dérogations aux articles 7 et 8 ne peuvent être davantage mises en œuvre pour les mêmes raisons. Donc, l'accès aux médicaments, les conséquences donc, de l'accession difficile aux médicaments sont que, c'est-à-dire que ça devient la première cause de mortalité dans cette partie du globe, du fait qu'on n'ait pas une accession facile aux médicaments. Et deuxièmement, il y a un développement énorme de la contrefaçon de faux médicaments. Ensuite, donc, il y a la problématique de la brevetabilité du vivant. Donc, une des questions que soulève donc l'APIC est celle de la brevetabilité du vivant. C'est-à-dire que depuis, en vertu de l'article 27.3b, les pays qui ont adhéré à l'APIC sont obligés de protéger le vivant, soit par le brevet, soit par un système sui generis efficace. Bon, on constate que l'ADMI ne respecte pas le principe de souveraineté prôné par la Convention sur la diversité biologique, pas plus qu'elle ne respecte le partage équitable des avantages, puisqu'on demande de breveter le vivant, mais en contrepartie, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de contrepartie pour les paysans où on va chercher la matière vivante. Il n'y a aucune contrepartie. Donc, ça, c'est les conséquences de la brevetabilité du vivant, dont les ressources génétiques sont pillées, le prix de la nourriture augmente puisqu'il faut payer des royalties. Le brevet aussi marque la fin du privilège du fermier. Et ensuite, les firmes peuvent revendiquer un droit de propriété exclusif sur une partie d'informations génétiques. Donc, quelles sont les alternatives? Donc, bon, ça j'explique ce que c'est que la protection sui generis, c'est une protection spécifique qui est différente de la protection par brevet. Donc, les pays ont la possibilité soit d'adopter le brevet, soit d'adopter un système sui generis efficace. Les pays de l'OAPI ont adopté l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, mais les Africains se sont réunis et ils ont élaboré une loi modèle OUA qui intègre en fait les droits, qui essaye d'intégrer les droits des agriculteurs, les droits des propriétaires des ressources génétiques et qui essaye de faire en sorte que l'accès aux ressources biologiques soit réglementé. Toutefois, cette loi ne fait pas l'unanimité au niveau international. Elle est notamment rejetée par l'OMPI et par l'OMC qui pensent que cette loi-là ne va à l'encontre du principe de brevetabilité du vivant. Donc, ma conclusion, je dis, à un degré de développement correspond un certain niveau de protection de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle ne peut pas être appliquée de la même façon par tous les pays en voie de développement. Effectivement, le degré de propriété intellectuelle n'est pas le même et il faudrait pour cela baisser le niveau de protection au lieu de l'augmenter dans les pays qui ne peuvent pas pour le moment avoir un accès minimum à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation. Il faudrait copier pour se développer comme l'ont fait la plupart des pays en voie de développement, comme ça a été le cas des États-Unis, comme ça a été le cas de la Suisse et comme ça a été plus récemment le cas de la Chine ou de la Taïwan. Je vous remercie.